Eh bien, voici Karl-Heinz Stierle, qui revient au Collège de France, où il est déjà venu souvent, pour parler déjà de Paris, puisqu'il est l'auteur de ce grand livre qui est vraiment au centre de toutes les questions que nous avons abordées cette année, hein, le livre qui a été traduit en français sous le titre de « La capitale des signes », livre de 1993, traduit en 2001, où Paris et tous ses tableaux de Paris et ses physiologies sont tout à fait centraux. Et il m'a donné ce matin un autre livre, « Pariser Prismen », donc les prismes parisiens, qui est paru cette année en Allemagne, qui n'est donc pas encore traduit, mais qui est de nouveau avec Paris au centre. Alors, je lui donne la parole sous le titre « Un art impur, Baudelaire, critique d'art et poète de Paris ». À vous.
Je commence en disant que toutes les voies mènent à Rome et toutes les voies aussi mènent au chiffonnier. Mais je dois dire que je voudrais bien faire un petit détour qui, j'espère, me fera arriver tout de même à notre sujet. Et en plus, si quelquefois j'ai des hésitations en français, je vous prie de me pardonner parce que, comme Antoine l'a dit, je viens d'un peu loin, c'est-à-dire de l'Allemagne, et je ferai de mon mieux. Donc, mon point de départ sera une réflexion sur la relation entre Baudelaire critique d'art et Baudelaire poète, et sur cette relation compliquée qu'il y a entre les deux identités, si vous voulez, de Baudelaire. Aucun poète lyrique, à l'exception peut-être de Hölderlin, n'a réfléchi les prémices de sa poésie avec autant de lucidité que Charles Baudelaire. Cette réflexion du poète à la recherche d'une nouvelle poétique va de pair avec les réflexions de Baudelaire critique d'art à la recherche d'un fondement pour ses jugements esthétiques. En effet, on peut constater que c'est Baudelaire critique d'art, explorant les possibilités d'une esthétique moderne, qui a découvert une nouvelle poétique, fondement d'une nouvelle écriture réalisée dans le petit nombre de ses poésies. On peut certes s'exposer au charme de cette poésie, à ses images et à ses rythmes, sans se soucier le moins du monde des nouveaux concepts qui la dirigent. Mais une compréhension approfondie, me semble-t-il, ne peut faire abstraction de ses prémices, puisqu'elle conditionne, comme nous le verrons peut-être, la volonté poétique qui, en effet, a trouvé du nouveau. Comme vous le savez, Eugène Delacroix a été le premier grand héros de la peinture moderne célébrée par Baudelaire. Peinture moderne veut dire ici peinture romantique. Romantisme et modernité semblent être plus ou moins synonymes quand, dans son deuxième salon, celui de 1946, Baudelaire, en se servant d'une formule de Stendhal, définit le romantisme comme l'expression la plus récente, la plus actuelle du beau. Le modernisme, cependant, est bien loin de déterminer le romantisme. C'est le romantisme, au contraire, qui le domine. Baudelaire s'explique par la définition suivante. Qui dit romantisme, dit art moderne, c'est-à-dire intimité, spiritualité, couleur, aspiration vers l'infini, exprimé par tous les moyens que contiennent ces arts. Qu'est-ce que la couleur dans une esthétique romantique? Elle est, chose peu surprenante au premier abord, harmonie. L'harmonie est la base de la théorie de la couleur. Pour expliquer la nature de cette harmonie, Baudelaire a recours à la musique. La couleur est l'accord de deux tons, des accords se compose la mélodie. La mélodie est l'unité dans la couleur ou la couleur générale. Et quel est l'effet le plus profond de la mélodie? Elle touche au souvenir en deux manières. Elle s'inscrit dans le souvenir et elle a la force d'évoquer le souvenir. Je cite, « Ainsi, la mélodie laisse dans l'esprit un souvenir profond. » Nous voilà au seuil d'une nouvelle esthétique de l'intime du cerveau et donc de l'analogie, de la réunion intime entre les couleurs, les sons et les parfums, comme Baudelaire dit lui-même en se servant d'un passage célèbre des Kreisleriana de E.T.A. Hoffmann. Baudelaire termine cette réflexion sur la couleur par une opposition typologique entre coloriste et dessinateur, qui va l'occuper encore longtemps. Les purs dessinateurs sont des philosophes et des abstracteurs de quintessence. Les coloristes sont des poètes épiques. Cette différence entre dessinateurs et qui sont des philosophes et abstracteurs de quintessence et les coloristes me semble être très, très importante pour tout le développement du problème qu'il y a à déterminer la relation entre justement art pur et art impur. Dans le premier salon de 1945, Baudelaire avait déjà fait l'éloge de Delacroix comme harmoniste. Monsieur Delacroix est plus fort que jamais dans une voie de progrès sans cesse renaissante, c'est-à-dire qu'il est plus que jamais harmoniste. Après avoir expliqué dans le second salon ce que c'est que le romantisme et la couleur, et surtout ce qu'il comprend par harmonie, il peut de nouveau passer immédiatement à son peintre préféré, c'est-à-dire Delacroix. Cette fois-ci, il commence en rappelant le premier grand tableau du jeune Delacroix qui avait fait sensation, celui de Dante et Virgile aux Enfers. D'ailleurs, cela me donne occasion de dire que, selon moi, Delacroix est un des premiers à vraiment avoir compris la relation entre Dante et Virgile dans la comédie. Vous pouvez regarder dans le Louvre cette configuration entre Dante et Virgile et vous verrez que c'est une relation d'amitié et non pas une relation entre disciple et maître, parce que entre Dante et Virgile, il y a une double affinité, et surtout celle de l'exil, n'est-ce pas ? Dante écrit dans l'exil, Virgile est dans un exil éternel. C'est pourquoi aussi, dans la comédie, il y a la rime Virgile-exil. Et il me semble que Delacroix est le premier à vraiment avoir saisi cette relation très subtile entre les deux grands poètes. Ce grand exemple permet à Baudelaire de mettre en lumière deux principes particuliers de Delacroix, que le tableau doit avant tout reproduire la pensée intime de l'artiste et que la main doit se prêter sans hésitation à la réalisation de cette pensée. Ensuite, Baudelaire progresse de précision en précision. Ainsi, il pourra dire que le souvenir est le grand critérium d'art et que l'art est une mnémotechnie du beau. Pour que le tableau puisse être tel, il faut qu'il ait lui-même la structure du souvenir, c'est-à-dire celui de la superposition et des couleurs harmoniques et irréelles entre ses couches. Je cite, « Un bon tableau, fidèle et égal au rêve, qu'il a enfanté, doit être composé comme un monde. De même que la création telle que nous la voyons est le résultat de plusieurs créations dont les précédentes sont toujours complétées par la suivante, ainsi, un tableau conduit harmoniquement consiste en une série de tableaux superposés, chaque nouvelle couche donnant au rêve plus de réalité et le fait monter dans le degré vers la perfection. Il en résulte ce que Baudelaire, au début de son essai « L'art philosophique », appelle « l'art pur ». Qu'est-ce que l'art pur, suivant la conception moderne, c'est créer une magie suggestive contenant à la fois l'objet et le sujet, le monde extérieur, l'artiste, et l'artiste lui-même. Et pourtant, il semble que l'art pur, selon la conception du moderne, qui est celle du romantisme, ne puisse suffire aux exigences d'une modernité vraiment, résolument moderne. C'est pourquoi Baudelaire, idolâtre de l'art pur, mais curieux de frissons nouveaux de la modernité, va se risquer dans le domaine aventureux de l'art impur. Le salon de 1945, déjà, c'était terminé avec un ton nouveau d'impatience visant bien au-delà des tableaux d'histoire célébrés d'Eugène Delacroix. Je cite, « Au vent qui soufflera demain, nul ne tend l'oreille. Et pourtant, l'héroïsme de la vie moderne nous entoure et nous presse. Celui-là sera le peintre, le vrai peintre qui saura arracher à la vie actuelle son côté épique et nous faire voir et comprendre avec de la couleur ou du dessin combien nous sommes grands et poétiques dans nos cravates et nos bottes vernies. » Et il termine avec ce vœu ardent, « Puissent les vrais chercheurs nous donner l'année prochaine cette joie singulière de célébrer l'avènement du neuf. » Le ton ici est moitié ironique, moitié sérieux, comme si Baudelaire hésitait encore un peu à se décider. Ces choses nouvelles sont fascinantes, mais en même temps un peu inquiétantes. Dans le dernier chapitre du Salon de 1946, Baudelaire reprend l'idée d'un art qui devrait être l'expression de l'héroïsme de la vie moderne. Si l'art est vraiment conditionné par sa situation historique, ne doit-il pas nécessairement se composer de deux éléments, de quelque chose d'éternel et de quelque chose de transitoire, d'absolu et de particulier ? Peut-on alors échapper à la mode présente, même si la redingote et l'habit noir sont le symbole d'un deuil perpétuel et en cela l'expression de l'égalité universelle? Le ton de plaisanterie sournoise ne peut cacher que Baudelaire poursuit ici une construction troublante. L'art moderne se ferme devant ceux qui devraient le regarder de plus. Le spectacle de la vie élégante et des milliers d'existences flottantes qui circulent dans les souterrains d'une grande ville, criminelles et filles entretenues, la Gazette des tribunaux et le Moniteur nous prouvent que nous n'avons qu'à ouvrir les yeux pour connaître notre héroïsme. Alors ici, il se rend compte que cette conception de l'art pur exclut trop de réalités qui se trouvent devant les yeux et que le prix donc pour cet art pur peut de plus en plus être un peu trop élevé. Ce que l'art pur, mais même moderne, se laisse échapper, c'est justement le monde moderne avec sa poésie, avec ses merveilles à lui. La vie parisienne est féconde, et là nous sommes enfin à Paris, à la vie parisienne. La vie parisienne est féconde en sujets poétiques et merveilleux. Le merveilleux nous enveloppe, nous abreuve comme l'atmosphère, mais nous ne le voyons pas. Celui qui a déjà donné une idée de sa grandeur n'est pas un peintre, mais un romancier. C'est Honoré de Balzac. Donc, si l'art pur s'est montré imperméable au monde moderne, il faut chercher sa présence dans l'art impur. Voilà que Baudelaire, dans son grand essai de l'essence du rire et généralement du comique dans les arts plastiques, explore un genre laissé de côté par toute réflexion sérieuse de l'art, mais omniprésent dans le monde moderne de la presse de masse, celui de la caricature. Les caricatures, comme les feuilles volantes du journalisme, sont le fruit du moment et se perdent avec lui, produit d'un art anonyme à l'époque florissante de sa reproduction mécanisée, pour citer le titre d'un essai célèbre de Walter Benjamin. Ce phénomène de la de cet art nouveau de la caricature, va amener Baudelaire à l'observation de la réalité la plus moderne au centre de la modernité, c'est-à-dire à Paris, à une réflexion d'ordre anthropologique et par cela à une métaphysique proche de celle chrétienne de Pascal. Parce que maintenant, il se demande, mais ce ridicule qui gouverne les caricatures, il est de quel ordre? Il est de quelle nature? Et là, il commence à réfléchir sur une dimension de l'art qui est bien loin de ce qu'il avait d'abord conçu comme art pur. Et il dit, l'innocence, la sagesse divine, n'ont pas de rire. Le rire tel qu'il est provoqué par les manœuvres savantes de la caricature est signe d'une chute, de déchirement, de convulsion, de choc. Pour concrétiser cette réflexion, Baudelaire s'imagine, comme la naïve et innocente Virginie du roman de Bernard de Saint-Pierre, arrivée à Paris et au Palais Royal, voit pour la première fois au carreau d'un vitrier une caricature. Le trouble qu'elle éprouve sera la fin de son innocence, le début de son déchirement, de sa réflexion du monde. Peut-être aussi c'est le début de l'innocence de l'art. Pour Baudelaire, le rire est la part satanique de l'homme, le signe de sa chute, qui est en même temps le signe de sa distinction. Et alors, il dit, c'est du choc perpétuel de ces deux infinis que se dégage le rire. Ici, le choc est encore, ne fait pas encore partie d'une poétique du choc ou d'une esthétique du choc, mais elle est conçue comme résultat d'une certaine nouvelle dimension de l'art qui est justement celle de la caricature. Le comique créé par l'art peut être de nature différente. Il peut avoir la forme modérée d'un comique significatif ou, comme dans la grotesque, atteindre au comique absolu. Mais voilà un autre paradoxe difficile à pénétrer. Les formes les plus pures d'un comique absolu ne sont pas réalisées dans des chefs-d'œuvre éminents, mais dans des œuvres mineures comme la princesse Brambilla de E.T.A. Hoffmann, qui peut devenir un catéchisme de haute esthétique, et plus encore dans la pantomime d'une quelconque troupe anglaise au théâtre des variétés. C'est dans l'événement de cette performance qui ne laissera aucune trace, ni comme œuvre écrite, ni comme œuvre d'art, sinon comme souvenir de celui qui en a fait l'expérience, que Baudelaire trouvera la plus haute forme du comique absolu, celle du vertige de l'hyperbole, de l'ivresse du rire, quelque chose de terrible et d'irrésistible. Quand, après cette digression au fondement métaphysique du comique, Baudelaire retourne à la caricature et aux caricaturistes, il semble toujours dans cette revue brillante qu'un défaut secret les empêcherait à atteindre au maximum de leur effet. Il parle de Gavarni, de Granville et surtout de Daumier. Je n'entre pas ici dans le détail. Il remarque toujours un côté trop littéraire dans ces caricatures, un côté trop littéraire qui empêche que ces caricatures pourraient être quelque chose comme une sorte d'art pur dans une dimension nouvelle. Il semble donc que la caricature, faisant partie d'une façon éminente de la vie moderne elle-même, en soit la seule représentation esthétique valable. D'autre part, il semble être contraire à son but esthétique qui est celui du rire. En effet, tandis que la pantomime, dans le sens de celle évoquée par Baudelaire, incite par sa présence pure et quasi immédiate le rire absolu, l'ivresse terrible du rire, la caricature semble être diminuée dans son effet par une trop grande proximité à la littérature ou, pourrait-on dire aussi, par sa cohabitation avec l'imprimé de tout genre. Baudelaire a repris le problème d'un art impur, mais nécessaire, dans les réflexions fondamentales de son essai « L'art philosophique ». À première vue, ce texte, très important pour Baudelaire, qui y a travaillé près de 10 ans sans l'avoir pu terminer, il se place dans la ligne du Laocoon de Lessing et semble vouloir défendre l'art pur contre l'art philosophique. Art impur en ce qu'il est un art plastique qui a la prétention de remplacer le livre, c'est-à-dire de rivaliser avec l'imprimerie pour enseigner l'histoire, la morale et la philosophie. Le retour de l'art philosophique, après la séparation des arts et des pouvoirs, serait-ce une décadence ou même une régression à l'époque où l'art s'exprimait encore en hiéroglyphes? Quoi qu'il en soit, Baudelaire va étudier l'art philosophique comme une, je cite, « monstruosité où se sont montrés de beaux talents », ce qui indique néanmoins un intérêt à peine avoué. Ce sont les Allemands, avec Overbeck et surtout avec le graveur Rethel, qui ont remis en valeur l'art de l'allégorie et de l'allégorie cachée, donc de l'hiéroglyphe. Dans la danse des morts de Rethel, accompagnée de légendes en vers, semble avoir recours à Holbein et à Dürer avec sa Mélancolia, gravure allégorique que Michelet avait en vain essayé de déchiffrer. C'est justement Dürer avec sa Mélancolia et la fascination profonde que cette gravure a eue au romantisme français, que Baudelaire a des problèmes parce qu'il sent l'intensité de cet art, mais de l'autre côté, il voit bien qu'il ne correspond pas du tout à sa propre conception de l'art pur, mais que qu'elle se trouve plutôt de l'art hérétique de l'impur, du didactique, de l'allégorique. Il se place aussi dans la tradition de Hogarth, que Baudelaire rappelle pour passer à une nouvelle description de l'art philosophique, tout concentré vers le déchiffrement où la couleur, de nouveau, ne joue aucun rôle. Il faut, dit-il, dans la traduction des œuvres d'art philosophique, apporter une grande minutie et une grande attention. Là, les lieux, le décor, les meubles, les ustensiles, voire Hogarth, tout est allégorie, allusion, hiéroglyphe, rébus, tout pour moi devient allégorie. On trouvera ce vers, comme vous le savez, dans le signe. Nous y reviendrons à cette phrase en parlant du signe. Si Baudelaire se voit du côté de l'art romantique français qui, dans l'intérêt d'un art pur, avait repoussé les tendances d'un romantisme allemand, cherchant ou sentant une nouvelle affinité avec l'art des soi-disant primitifs en Allemagne comme en Italie, il ne peut faire autrement qu'observer qu'en France aussi, avec l'art d'un Chenavard, il y a une réhabilitation de l'art hiéroglyphique, cette fois comme réaction contre l'école de l'art pour l'art. Les artistes suivant la doctrine de l'art philosophique sont, bien sûr, dans les yeux de Baudelaire, des hérétiques. Mais Baudelaire n'aimerait-il pas un peu ou beaucoup les hérétiques? Je cite, « Quoique je considère les artistes philosophiques comme des hérétiques, je suis arrivé à admirer souvent leurs efforts par un effet de ma propre raison. » Là, on voit bien ce conflit qu'il a, n'est-ce pas, de pouvoir admettre une sorte d'art philosophique qui, à la fois, serait art pur. Ces hérétiques, conclut Baudelaire, s'ils étaient logiques, devraient courageusement remonter vers toutes les innombrables et barbares conventions de l'art hiératique. On peut se demander si c'est une argumentatio ex absurdo ou un conseil. Est-ce une question en suspens? Ce qui est sûr, cependant, c'est que Baudelaire évite soigneusement une question qui devait être la question centrale. Est-ce que la modernité peut se passer de l'art philosophique? Au moins, de façon indirecte, Baudelaire y donne une réponse dans le chapitre « Sculpture », le dernier conclusif avant l'envoi de son salon de 1859. Déjà au salon de 46, il y avait un chapitre avec le titre programmatique « Pourquoi la sculpture est ennuyeuse ?». Le Baudelaire de 46 voit l'origine de la sculpture dans l'art des peuples primitifs de tailler un fétiche. C'est donc un art des Caraïbes. La sculpture est brutale et positive comme la nature. Elle ne connaît pas de progrès. C'est pourquoi, sortie de l'époque sauvage, la sculpture, dans son plus magnifique développement, n'est autre chose qu'un art complémentaire à la peinture et à l'architecture. Or, en 59, le point de vue de Baudelaire a étrangement changé. Baudelaire, cette fois, ne se pose plus la question abstraite de sa légitimité esthétique et de sa valeur comme art pur. Il parle de ses expériences vécues, qui ne sont plus proprement des expériences esthétiques, mais proviennent d'un autre ordre de fascination. Ce sont surtout des sculptures incarnant une allégorie et surgissant de manière imprévue sur les chemins du promeneur ou du flâneur qui s'imposent au regard et devant lesquelles la question de l'art pur ne se pose plus. Au détour d'un bosquet, abrité sous de lourds ombrages, l'éternelle mélancolie mire son visage auguste dans les eaux d'un bassin immobile comme elle, et le rêveur qui passe, attristé et charmé, contemplant cette grande figure aux membres robustes mais alanguis par une peine secrète, dit « Voilà ma sœur ». Et puis, avant de vous jeter dans le confessionnal, au fond de cette petite chapelle ébranlée par le trot des omnibus, vous êtes arrêté par un fantôme décharné et magnifique qui soulève discrètement l'énorme couvercle de son sépulcre pour vous supplier, créature passagère, de penser à l'éternité. Ici, on dirait que Baudelaire, malgré lui et malgré sa théorie de l'illégitimité de l'art philosophique, est justement au milieu de Paris, pris par la fascination, par le charme profond d'un art qui peut-être ne veut plus être art, mais qui a une nouvelle forme de fascination dans la grande ville moderne. Donc, surtout, la grande ville est pleine de ces allégories lisibles qui donnent une nouvelle dimension à sa lisibilité et qui sont comme une sorte de présence de l'éternel dans un monde du fugitif. Et il semble bien ici un art impur justifié par sa fonction. N'importe qu'il soit signé ou anonyme, cet art philosophique de la sculpture allégorique et signifiante ne peut plus être mis en question. Voilà Baudelaire lui-même qui remonte vers toutes les innombrables et barbares conventions de l'art hiératique. La statue, en dernière conséquence, se situerait peut-être entièrement en dehors du domaine esthétique. Ce qui rend d'autant plus pressante la question de savoir si une esthétique, un art de la ville, est possible, s'il peut être art pur, s'il doit, par la nature même de son objet, rester nécessairement dans le domaine de l'art pur, et si cette nécessité ne doit pas donner à l'art impur la légitimité de l'art pur. Je passe et je continue en parlant de Constantin Guisse et de son peintre de la vie moderne. Titre, me semble-t-il, qui est faux sous deux aspects. Le premier, dans cet article, Baudelaire ne parle pas du tout d'un peintre, mais d'un dessinateur, de quelqu'un qui voit la ville en blanc et en noir. Et en plus, on peut dire que cet essai sur un peintre est en réalité déjà un essai sur une nouvelle dimension, pas de la peinture, pas de l'art, mais de la poésie. D'une certaine manière, Guisse est une sorte d'emblème ou d'hiéroglyphe du poète en ville, et ça veut dire aussi de Baudelaire lui-même. Dans son célèbre article de 63, en donnant le portrait d'un dessinateur qui n'était pas de premier ordre, qui était singulier comme Mérion, autodidacte et venu tard à sa vocation comme lui, Baudelaire développe le programme et le problème d'une esthétique de la ville comme esthétique de la ville moderne. Et il le fait en partant de nouveau d'un phénomène banal de la culture de masse moderne. Cette fois-ci, ce n'est pas la caricature, mais c'est le dessin de mode. Le dessin de mode comme apparition d'une nouvelle dimension de l'art. Baudelaire est le seul à ce moment qui avait le courage théorique, n'est-ce pas, de penser la possibilité que justement le dessin de mode pourrait ouvrir une nouvelle dimension de l'expérience de l'art. Il y a dans cet essai, au moment de sa spéculation la plus profonde, une pensée quasiment jubilatoire qui va devenir le fondement métaphysique d'une poétique. Non, là je dois... J'ai un peu perdu mon contexte. Je voulais d'abord, avant de parler de Guise, revenir de nouveau à l'essence du rire, où Baudelaire décrit le comique effréné de la pantomime des Anglais, et où il ajoute « Comment la plume pourrait-elle rivaliser avec la pantomime ?» Ce qui indique aussi que l'idée de cette rivalité ne puisse pas être étrangère. Et quand, dans le chapitre des femmes et des filles du peintre de la vie moderne, il se met à évoquer la galerie immense des différents types de la femme errante, de la femme révoltée à tous les étages que Guise avait peinte, il termine « Elle s'engrosse de suggestions, mais de suggestions cruelles, âpres, que ma plume, bien qu'accoutumée à lutter contre les représentations plastiques, n'a peut-être traduite qu'insuffisamment. » En vérité, dès l'essence du rire, Baudelaire a déjà commencé à changer cette défaite en victoire. Il y a dans cet essai, au moment de sa spéculation la plus profonde, une pensée quasiment jubilatoire qui va devenir le fondement métaphysique d'une poétique. Nous voyons, dit Baudelaire, que, comme Virginie, les nations primitives ne conçoivent pas la caricature et que, je cite Baudelaire, s'avançant peu à peu vers les pics nébuleux de l'intelligence ou se penchant sur les fournaises ténébreuses de la métaphysique, les nations se mettent à rire diaboliquement du rire de Melmoth. Et enfin, que si, dans ces mêmes nations ultra-civilisées, une intelligence poussée par une ambition supérieure, veut franchir les limites de l'orgueil mondain et s'élancer hardiment vers la poésie pure, dans cette poésie limpide et profonde comme la nature, le rire fera défaut comme dans l'âme du sage. Voilà, au-delà de la caricature, au-delà de l'art impur, la vision d'une poésie pure, vision de fleur du mal, de fleurs sortant du mal. Comme les purs dessinateurs, Baudelaire se sait abstracteur de quintessence. Le deuxième projet d'un épilogue pour la deuxième édition des Fleurs du Mal se termine avec ces vers, « Car j'ai de chaque chose extrait la quintessence, tu m'as donné ta boue, et j'en ai fait de l'or. » Les Fleurs du Mal sont un livre de quintessence de la ville, mais aussi un livre de poésie pure par une transmutation savante de cette ville. Hôpital, lupanar, purgatoire, enfer, bagne, où toute énormité fleurit comme une fleur. Ici, nous avons le moment, pour ainsi dire, de la transmutation d'un art impur en poésie pure. C'est la boue, si vous voulez, de l'expérience moderne qui, par la poésie et pas par l'art, est transposée en or. Cette poésie érigée sur les fondements d'un art impur et au-delà de ses frontières est une poésie de la conscience dans le mal, une poésie au deuxième degré si le mal lui-même est déjà conscience. Cette poésie est l'intime du cerveau, pour employer ici la formule que Baudelaire avait trouvée pour Delacroix, des soubresauts de la conscience desquels il parlera dans sa préface du Spleen de Paris. Il est libre de s'approprier tous les éléments de l'art pur, mais aussi bien de l'art impur, pour les synthétiser dans une synthèse imaginaire que seule la poésie, lieu de transgression du discours, aussi bien que de l'art, peut concevoir. Si on regarde de près, et je n'ai pas le temps de le faire, les tableaux parisiens, on pourrait démontrer que nous avons là une coprésence de la caricature, de la pantomime d'un côté et de l'autre côté de l'expérience de l'intime du cerveau, c'est-à-dire de l'analogie et de la superposition de la mémoire. Il y a dans le groupe des tableaux parisiens cinq poèmes que j'appellerais bien, en modifiant une formule baudelairienne, peut-être trop légèrement prêtée à Hoffmann, catéchisme de haute poétique. Baudelaire lui-même a souligné leur cohérence en les mettant ensemble. Ce sont cinq pantomimes, mais autrement que la pantomime anglaise dans les sens du rire, dont la présence irrésistible forçait à faire l'expérience de la violence du comique absolu, ce sont des pantomimes dans une tension fondamentale et insoluble entre le comique et le sublime. Ces pantomimes font le spectacle obsessionnel d'un flâneur en ville. Leur apparition dans la foule est un choc, justement parce que cette apparition irréelle et irréalisante de la Unreal City ne se laisse pas situer soit du côté du comique, soit du comique du sublime. Ce choc est à l'origine d'un travail poétique qui sera aussi quelque chose comme la Durcharbeitung de Freud. Le travail de la mémoire se transforme en travail de l'exécution et, dans un sens exact, en poème mémorable. Voici la pantomime des aveugles, pareil aux mannequins vaguement ridicules, terribles, singuliers, comme des somnambules. Leurs gestes vains de leurs globes vidés dressés vers un ciel qu'ils ne peuvent voir, quelle allégorie, quel emblème pour le poète traversant son propre noir illimité. Voici la pantomime de la passante, longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, élégante et provocante, avec son appareil de grand deuil et de dernier cri, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Voici la pantomime de cette vieillard, pantomime d'une apparition de choc qui, par sa répétition même, se fait obsession hallucinante de la ville. Voici en contre-image la pantomime des petites vieilles qui trottent tout pareil à des marionnettes, se traînent comme font les animaux blessés ou dansent sans vouloir danser, pauvres sonnettes où se pend un démon sans pitié. Et à la fin, où serez-vous demain, Ève octogénaire, sur qui pèse la griffe effroyable de Dieu? Dans une dernière pantomime, celle du cygne, avec ses gestes fous, comme les exilés, ridicules et sublimes, au cœur de ce poème qui est la somme d'une poétique de la ville avec laquelle Baudelaire, nouvel Ulysse, croyait avoir simplement réussi à dépasser les limites assignées de la poésie. Baudelaire se souvenait-il, quand il écrivit cette phrase, dans une lettre à Jean Morel, éditeur de la Revue française, de ce que, dans Gambara de Balzac, le comte André disait de Beethoven: Beethoven a reculé les bornes de la musique instrumentale et personne ne l'a saisi dans sa route. Combien de temps fallait-il à la critique littéraire pour découvrir le cygne? Le souvenir du cygne évadé se vautrant dans la poussière de la ville est un souvenir choc qui réapparaît soudain, mettant en branle toute une série superposée d'images et de souvenirs de la mémoire palimpseste. Une mémoire pour qui, me semble-t-il, l'acronyme de rock et de corps, mes souvenirs sont plus lourds que des rocks, et puis un corps qui sonne à tout souffle, qui sonne à une mémoire qui sonne à tout souffle du corps. Là, nous avons corps et roc Nous avons poésie de l'analogie et poésie du choc de l'autre côté qui se mêlent ensemble et qui donnent cette densité incomparable que Baudelaire, critique d'art, a pu réussir comme Baudelaire poète. Je vous remercie.
Merci, Karl-Heinz, de cet exposé où, quant à moi, j'ai entendu passer le chiffonnier à tout moment. Par exemple, dans l'art philosophique, puisque l'art philosophique nous parle de rételles qui sont des gravures sur le choléra de 1832 et sur les barricades de 1848, où on rejoint les questions que l'on a posées ce matin sur le chiffonnier. J'y pense aussi parce que il est là. Il est bien là aussi dans le peintre de la vie moderne. Quand Baudelaire renvoie au début et de nouveau à la fin à Karl Vernet et à Debucourt, qui sont les dessinateurs et les graveurs de ces costumes parisiens. Et c'est à ces costumes parisiens que Baudelaire pense. Donc, il est bien une figure qui traverse cette esthétique de la caricature, me semble-t-il, comme un personnage tout à fait important de cette configuration que vous développez. Il y est, tout le temps. Qu'est-ce que vous en pensez ?
D'accord. Je dirais aussi, il est présent, mais il n'est plus présent exclusivement, mais au contraire, dans une sorte de tension profonde. N'est-ce pas ? De tension profonde entre ce qui, d'abord, pour Baudelaire, était la tension entre art pur et art impur, mais cette tension devient la condition, je dirais, sous laquelle cette tension se transpose en poésie pure. Et cette poésie pure, elle se compose d'éléments qui pourraient ramener à Delacroix, mais de l'autre côté, d'éléments, en effet, qui rappellent le chiffonnier, qui rappellent aussi l'allégorie, qui rappellent aussi Dürer avec sa mélancolie.